Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette revue de presse du 7 mai 2024. Voici les titres d'actualité. Comment savoir que Dieu me parle ? Nous allons aller avec le frère Paul Adrien pour trois clés toutes simples et ainsi discerner et comprendre comment écouter Dieu et se conformer à ses désirs. Je vous lirai donc ces trois clés parues dans l'Invisible numéro 150. Nous allons ensuite parler d'un sujet qui ne fait pas plaisir mais qui est tristement d'actualité, à savoir la violence. Et notamment la violence qui n'a plus de limites aujourd'hui. Je vous lirai l'interview du père Jean-Marie Petitclerc donnée à Famille Chrétienne numéro 2415. Et pour compléter cette interview, je vous lirai également une courte interview du père Bertrand Monnier sur la violence dans les jeux vidéo et ainsi pouvoir en éviter les dangers. Cette interview est aussi dans l'Invisible numéro 150. Il aurait dû mourir à 9 mois, mais il va fêter ses 9 ans. Je vous parlerai du petit Jonathan Kremer, atteint d'une maladie génétique très très rare. Le témoignage est en ligne sur Aletheia. Et en culture chrétienne, je vous parlerai du livre de Don François-Xavier Péqueux, paru aux éditions MAM, « Jésus, que dois-je faire ?». Nous commençons cette revue de presse avec le frère Paul Adrien, qui va nous donner trois grandes clés pour savoir écouter Dieu et se conformer à ses désirs. Comment Dieu te parle ? On n'a pas tous la même sensibilité ni la même histoire. Il est donc normal que Dieu communique avec chacun d'entre nous de manière différente. Il y a le témoignage intérieur, le doux murmure de l'âme, mais aussi la prière, lien sacré entre l'homme et son Créateur. Les effets sont divers. Dieu peut te répondre en mettant en toi des convictions, des réponses concrètes, voire des miracles. Il peut même te parler en songe. Et puis parfois, il peut s'adresser à toi à travers des coïncidences, appelées aussi synchronicité. Des choses qui n'ont à première vue pas de rapport entre elles, mais qui semblent avoir un sens particulier. Ce sont des signes de la providence divine, car toute chose est dans la main de Dieu. Donc, le premier signe à interpréter quand Dieu nous parle, c'est comment il nous parle. La deuxième clé, c'est le silence de Dieu. Il est normal, quand Dieu semble ne pas répondre, de vouloir combler le silence en parlant à sa place. D'abord, rappelle-toi que Dieu passe son temps à te parler. Il écoute chacune de tes prières avec une attention aimante. Parfois, il attend que tu prennes ta décision en utilisant ton libre arbitre, car il est plus intéressé par ta réponse et ton cheminement personnel. Il attend que tu prennes ta décision à la lumière de son amour et de ses commandements. Parfois aussi, il peut te parler à travers des amis ou un inconnu. S'il fait cela, c'est pour nous apprendre une chose : l'humilité. Parfois aussi, nous essayons d'imposer à Dieu notre volonté en oubliant qu'il possède une perspective plus vaste, infinie. Dans ces moments-là, il est important de faire confiance, de lui soumettre tes plans et de chercher à faire sa volonté à lui. Fais attention à ce qui t'entoure et tu verras que Dieu multiplie pour toi les signes et les messages. Donc, la troisième clé pour savoir écouter Dieu, c'est le silence de Dieu. Et la troisième clé, pas des moindres, le discernement. Pour vérifier que la voix que tu as entendue venait de Dieu et pas de quelqu'un d'autre, tu peux te poser les questions suivantes. Est-ce que cela m'a fait grandir dans l'amour de Dieu et de mon prochain ? Est-ce que cela m'a rendu vigilant et attentif dans l'exercice de mon devoir d'État? Est-ce que cela fait des miracles? Est-ce que cela porte du fruit? Surtout, tu dois te conformer à la parole de Dieu et voir les fruits de l'Esprit-Saint. Si ce que tu entends conduit à l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi, c'est que Dieu était présent dans la voie que tu as choisi de suivre. Tu dois également être en accord avec tes frères et sœurs qui peuvent t'aider à discerner. Donc, les trois clés du frère Paul Adrien quand Dieu nous parle. Donc, la première, c'était comment Dieu nous parle, donc à travers notre sensibilité et notre histoire. Le silence de Dieu et ce que l'on en fait. Et enfin, le discernement. Vous pourrez retrouver ces trois clés dans l'Invisible numéro 150. Nous passons maintenant au triste sujet de la violence. Les violences mettant en cause les jeunes se multiplient. Nous le savons tous. Pour le père Jean-Marie Petitclerc, ces violences relèvent d'un grave déficit éducatif et d'une fascination morbide aussi pour les images choquantes. Voici donc l'interview qu'il a donnée à Famille Chrétienne numéro 2415. Que vous inspirent les récents épisodes de violence extrême impliquant de jeunes adolescents? La violence dans les quartiers a toujours existé. Mais le rajeunissement des agresseurs est frappant. On l'avait déjà observé au moment des émeutes qui ont embrasé le pays en juin 2023. D'autre part, l'intensification de la violence s'est accentuée. Dans les années 1980, les bagarres de rue entre bandes rivales s'arrêtaient lorsque la victime était à terre. On avait gagné, on s'arrêtait là. Aujourd'hui, ces jeunes attaquent des personnes qui ne peuvent plus se défendre, allant parfois jusqu'à donner la mort. Alors, au regard de vos longues années d'expérience au contact des jeunes des quartiers sensibles, Père Jean-Marie, comment a évolué cette violence? Ce qui a changé dans ces dérèglements de compte, c'est avant tout l'usage banalisé du couteau et des armes tranchantes. Les blessures sont beaucoup plus dramatiques pour les victimes. Il y a quelques années, les jeunes se battaient essentiellement avec des battes de baseball ou des poings américains. Lorsque deux bandes s'affrontaient dans la rue, il existait un certain code d'honneur qui permettait de canaliser des situations tendues. Actuellement, nous faisons systématiquement face à plusieurs jeunes, avec de plus en plus de mineurs qui s'acharnent gratuitement sur une victime isolée et souvent désarmée. Donc il n'existe plus de règles qui régule cette violence. Alors, y a-t-il une volonté chez ces jeunes de donner la mort? Père Jean-Marie nous dit « J'y vois davantage une non-maîtrise de la violence. Les armes tranchantes apportent ce risque supplémentaire de mort. Mais je pense que ces agresseurs s'effondrent quand, chez le juge, ils prennent conscience de leurs actes. Le grand drame aujourd'hui, c'est l'absence d'adultes auprès d'eux qui pourraient les canaliser. Quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils dans le développement de la violence chez les plus jeunes? Il y a 10 ans encore, nous dit Père Jean-Marie, les personnages de jeux vidéo étaient des silhouettes vagues, très éloignées de la réalité. Il était difficile de s'identifier à eux. Aujourd'hui, face à un jeune en train de jouer, il me faut un petit moment pour voir s'il ne regarde pas un reportage sur un attentat terroriste ou des scènes de guerre. Il y a eu récemment un tel progrès des technologies que le virtuel a désormais la couleur du réel. Cela s'applique inévitablement aux réseaux sociaux, qui véhiculent de plus en plus d'images très dures pour un jeune. La grande différence entre la violence dans le virtuel et le réel, c'est la place de la souffrance. Je pense à tous ces enfants qui filment un règlement de compte au lieu de porter assistance à la victime. Ils seront simplement attentifs à la construction d'une bonne image, au succès de leurs clips vidéo sur les réseaux. Si je veux augmenter mon nombre de followers, je dois partager des images choc. Il faut de toute urgence éduquer ces enfants aux écrans, leur apprendre la frontière entre le virtuel et le réel, entre le jeu et la réalité. Mais y a-t-il une fascination pour la violence que l'on ne connaissait pas jusqu'ici ? La violence a toujours eu un effet de fascination, d'autant plus à l'adolescence, à un âge où les jeunes se cherchent et se construisent. La perception de la violence qui en découle doit faire contrepoids. Ce qui fait notre humanité, c'est la capacité de l'homme à compatir à celui qui souffre. Mais comment expliquer cette absence d'empathie ? Ces jeunes rompus à la violence souffrent d'un déficit d'expression. Le langage permet de mettre des mots sur son ressenti et de prendre la distance nécessaire à toute situation conflictuelle. On observe que les jeunes les plus violents sont dépourvus de langage émotif. À défaut de mots, la seule façon pour eux de canaliser cette violence qui les habite, c'est de répondre physiquement à leurs interlocuteurs. J'insiste beaucoup sur le développement du langage émotif et sur la médiation auprès des directeurs d'établissements scolaires que j'accompagne. D'autre part, il ne faut pas sous-estimer le déficit éducatif chez certains jeunes. Au départ, l'enfant est centré sur lui-même. Il faut lui permettre de s'ouvrir à l'altérité, de mettre des mots sur ce qui l'entoure, de le reprendre quand c'est nécessaire, ce qui n'est pas toujours fait par les parents. Quelle est la conséquence de l'absence d'attention et de présence des parents sur le comportement d'un enfant ? La famille est à la fois le lieu de la sécurisation affective et de l'apprentissage du vivre ensemble. Cet apprentissage doit se faire aussi à l'école et dans la cité. Le défi éducatif doit être l'affaire de tous. Les familles sont complètement fragilisées. Les parents divorcent et se séparent à tout va. Cela a nécessairement une répercussion sur les jeunes. Il faut éduquer la gestion de la frustration. Je vois nombre de traits de violence pouvant s'interpréter comme l'incapacité pour l'adolescent de gérer la frustration suscitée par le non de l'adulte. En 40 ans de pratique, j'ai découvert que les jeunes les plus violents sont habités par un manque d'estime d'eux-mêmes. Lorsque j'arrive à penser que la seule manière de me prouver que j'existe est d'écraser l'autre, c'est que je peine à me faire reconnaître par mes propres talents. Quel est l'impact de l'effacement d'un père à la maison ? On dit souvent « société sans père, société sans repère ». Les fonctions paternelles et maternelles sont très différentes. Le petit enfant a une relation très fusionnelle avec sa mère. Le père est le témoin de la loi dans la famille. C'est généralement lui qui rappelle à l'ordre des enfants turbulents. Cette dualité amour-loi est essentielle pour l'équilibre de l'enfant. Et malheureusement, de nombreuses familles sont amputées de l'un des deux parents. Pour beaucoup de jeunes que j'accompagne, les hommes ont complètement disparu de la circulation. Ils sont élevés par des mères seules et ne rencontrent aucun homme dans leur parcours éducatif. Leurs enseignants, leurs proviseurs, leurs assistantes d'éducation sont des femmes. Les seuls hommes qu'ils rencontrent sont des policiers. Ils n'ont pas l'occasion de s'identifier à un homme qui leur a appris à gérer les conflits sans recourir à la violence. On éduque beaucoup mieux par l'exemple que par les mots. Alors les filles sont-elles de plus en plus violentes ? Les statistiques des tribunaux pour enfants attribuent encore largement les faits de délinquance et de violence à des garçons. Mais la proportion des filles augmente considérablement. Initialement, elles ont une plus grande facilité de recours au langage émotif. Elles canalisent plus aisément une violence naissante. D'ailleurs, une fille qui pleure, c'est une qualité. Cela signifie qu'elle est sensible. En revanche, dans la culture des quartiers, si un garçon se mettait à pleurer, il fragiliserait son image de caïd. Pour un garçon qui n'est pas bien dans sa tête, la seule manière de le montrer, c'est de casser ou d'agresser. Ce sont des garçons à qui l'on n'apprend pas à gérer leurs émotions. Leur colère grandit et se transforme en violence. Et pour terminer, quels conseils donneriez-vous aux parents dont les enfants sont témoins de ces violences ? Les parents doivent être en mesure de rassurer leurs enfants. Il ne faut pas que ces derniers identifient tous les jeunes qu'ils vont croiser à cette minorité violente. En tant que chrétiens, il nous faut apprendre, dès le plus jeune âge, à juger les comportements plutôt que les personnes. Le grand message de paix du Christ doit transparaître dans notre capacité à pardonner, à expliquer aux plus jeunes la détresse de certains, enfermés dans des spirales de violence. Il faut que les parents expliquent à leurs enfants les difficultés que rencontrent ces jeunes avec des mots simples. C'était l'interview du père Jean-Marie Petitclerc sur la violence qui ne connaît plus de limites aujourd'hui. Une interview que vous pourrez retrouver dans le Famille Chrétienne numéro 2415. Et nous complétons ce sujet de la violence avec les jeux vidéo. Comment éviter les dangers ? Voici donc les conseils du père Bertrand Monnier, donnés à l'Invisible numéro 150. Pouvez-vous faire un rapide état des lieux de la pratique de jeux vidéo chez les jeunes aujourd'hui ? Le père Bertrand nous dit « Une grosse majorité des jeunes jouent aux jeux vidéo. » Faut le savoir. Je dirais qu'entre 70 et 80% des jeunes ont une consommation régulière. Cette activité varie bien sûr de l'un à l'autre. Les joueurs sont en moyenne autant en cours que sur les jeux vidéo. Certains font beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Alors il ne faut surtout pas généraliser ces chiffres-là. Quel intérêt a l'Église à considérer plus sérieusement ce phénomène de société ? L'intérêt est d'abord culturel. Au XXe siècle, l'Église s'est beaucoup penchée sur les questions morales et sociales au détriment des questions culturelles. Il y a eu une véritable explosion technologique. Mais étrangement, l'Église n'a quasiment aucune parole là-dessus, aucun retour, comme si ça ne la concernait pas. Cette indifférence-là est à mon avis à corriger. Par exemple, en créant des espaces de dialogue, d'ouverture et de rencontre. Ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Quelle distinction faites-vous entre la fuite et l'escapade dans les jeux vidéo ? Ce n'est pas moi, nous dit le père Bertrand, qui fait la distinction. C'est ce grand auteur qu'est Tolkien. Il disait qu'il faut faire la différence entre l'escapade du prisonnier et la fuite du déserteur. On a besoin de s'échapper, de s'évader, car parfois c'est bon pour nous. Mais si cette escapade devient une fuite, et en particulier une fuite de la réalité, cela crée des soucis. Quand on s'évade, c'est qu'on a besoin de trouver un réenchantement, de renouer avec le mythe comme une vérité poétique et symbolique qui donne du sens et ramène au réel. Avez-vous quelques techniques concrètes à donner aux parents pour contrôler le temps de jeu de leurs enfants ? Il faut discuter avec les enfants, surtout quand ils arrivent à l'adolescence. Poser des règlements pour la famille tout entière. Le pas d'écran le soir doit valoir pour tous, même les parents. Ces derniers peuvent proposer un petit cahier d'accompagnement dans lequel l'enfant note ses temps de jeu et ses observations. C'est un support de discussion qui permet aux parents de comprendre le fonctionnement de leurs enfants. Surtout, ne pas faire en sorte que le jeu vidéo soit une caverne. Et pour terminer, la pratique intensive des jeux vidéo peut-elle nous couper de notre relation à Dieu ? Alors le père Bertrand nous répond fermement. Absolument ! Cela fait partie des dangers. Si le jeu vidéo vous coupe de l'humain, il vous coupe de Dieu. Dans le cas d'addiction, par exemple, il y a la question de savoir où on place notre âme. On voit dans l'Évangile, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Quelqu'un qui ne pense qu'aux jeux vidéo ne laisse pas de place à la présence de Dieu dans sa vie. Pour autant, l'un et l'autre ne sont pas du tout inconciliables. C'était les conseils du père Bertrand Monnier sur les jeux vidéo. Comment éviter les dangers ? Une interview que vous pourrez retrouver dans l'Invisible numéro 150. Nous allons maintenant à la rencontre de Jonathan Kremer, qui devait vivre que 9 mois. Et cette année, il va fêter ses 9 ans. Ce petit garçon offre une véritable leçon d'espérance et de joie contre la maladie. Le témoignage est en ligne sur Aletheia. Jonathan Kremer est un petit garçon joyeux qui va fêter ses 9 ans et qui vit en Allemagne avec ses parents. Mais sa vie ne ressemble pas tout à fait à celle des autres garçons de son âge. Jonathan est atteint de nanisme, microcéphalique ostéodysphasique primordiale de type 1. Une anomalie génétique rare qui se manifeste notamment par une petite taille, une raideur musculaire et une immunité très faible. L'histoire commence lorsque les médecins identifient chez Simone, alors enceinte de Jonathan, des problèmes avec le placenta. Ils remarquent que le bébé ne se développe pas correctement. En raison d'une précédente fausse couche et de saignements abondants au cours de cette grossesse, j'ai subi des examens approfondis chez un gynécologue, nous dit Simone. Même avant la 16e semaine de grossesse, on a remarqué pour la première fois que le bébé ne se développait pas correctement. Il était beaucoup trop petit, donc la date d'accouchement calculée a été corrigée. Les médecins ont informé aussi la future maman que sa grossesse présentait des risques. Finalement, Jonathan naît à 28 semaines de grossesse. Le bébé est minuscule. Il ne pèse que 490 grammes et mesure seulement 29 cm. Au départ, Simone n'arrive pas à accepter le handicap de son fils et pense le confier à l'adoption. Mais son mari finit par l'empêcher de prendre cette décision. Il a su sur quel bouton appuyer pour me faire réagir. Il m'a dit « Je signe les papiers d'adoption, mais c'est toi qui iras apporter les papiers aux autorités. Ou tu iras à la clinique pour prendre soin de Jonathan. » Quand Simone finit par retourner à la clinique, le lendemain, elle réalise que son fils fera toujours partie de sa vie, qu'il est un miracle qu'il faut protéger. Aujourd'hui, son petit Jonathan va avoir 9 ans et mesure moins d'un mètre, ce qui équivaut à peu près à la taille d'un enfant d'un an. En Allemagne, seuls 6 enfants souffrent d'une telle maladie. Dans la plupart des cas, les prédictions des médecins ne sont pas réalisées. Jonathan peut s'asseoir, ramper et faire quelques pas avec de l'aide. Il peut manger avec une petite cuillère. Il ne peut pas encore parler, mais il comprend presque tout ce que nous lui disons. Il souffre d'épilepsie, mais grâce aux médicaments, les crises sont rares. Simone assure que leur vie n'est pas très différente de celle des autres. Nous faisons tout ce que font les autres familles. Nous faisons des excursions en ville, nous allons au zoo ou au musée. Nous passons nos vacances à la mer ou à la montagne. Le quotidien d'une famille heureuse et unie qui nécessite pourtant quelques aménagements. Jonathan aime le sport. Équipé de son petit casque, il apprécie tout particulièrement de faire du vélo avec son papa dans un siège enfant ou monter sur une petite draisienne. Nous avons reconstruit son aire de jeu et l'avons adapté à sa taille. La balançoire est toute petite. Ils expliquent que tous les parents souhaitent avant tout que leur enfant naisse en bonne santé. Simone a fondé une association pour aider les familles touchées par la même maladie que Jonathan. Ce voyage, qui a commencé avec la peur de l'avenir, rassemble aujourd'hui plus de 100 personnes partageant le même sort, leur donnant force, courage et leur apporte en même temps des connaissances médicales. Avec le recul, nous dit Simone, je pense qu'il aurait été préférable pour nous que les médecins s'abstiennent de faire des pronostics, car cela nous faisait tellement peur pour l'avenir. Et ils ne se sont pas réalisés. Elle adresse avec son mari un message à tous les parents qui accueillent un enfant porteur d'un lourd handicap et d'une maladie génétique rare. N'abandonnez jamais. Continuez à vous battre, cela en vaut la peine. Vous pourrez retrouver l'intégralité du témoignage au sujet du petit Jonathan Kremer, un petit garçon qui ne devait vivre que 9 mois et qui va fêter ses 9 ans cette année. Le témoignage est en ligne sur Aletheia. Nous passons maintenant à la culture chrétienne, où je vais vous présenter le livre de Don François-Xavier Péqueux, paru aux éditions MAM et qui s'intitule « Jésus, que dois-je faire ?». Pour cela, je vais vous lire un petit extrait qui est intitulé dans le chapitre « Prier tous les jours ». Alors, si on n'a pas le temps de prier, soyons honnêtes, on trouve toujours le temps pour les nécessités vitales. Personne n'est mort de faim pour n'avoir pas trouvé le temps de manger. Si tu as compris que la prière est l'aliment de ton âme, tu trouveras le temps. D'ailleurs, pour la prière, la régularité compte plus que la longueur. Mieux vaut prier un peu tous les jours que beaucoup tous les mois. Il faut donc réussir à ancrer les bonnes habitudes dans tes journées. Et si on a la flemme ? Eh bien, on prie quand même. Si un jour tu as envie de prier, tant mieux. Mais si tu attends d'avoir envie de prier pour te mettre à prier, tu risques d'attendre longtemps. N'oublie jamais que Dieu a envie de ta prière. C'est pour lui qu'il faut prier, par fidélité, par souci de lui plaire. Ta prière doit structurer ta journée, ton temps, peu importe ce que tu ressens au moment où tu commences à prier. Et si on galère ? C'est que tu es normal. La prière est un combat. Elle demande de la persévérance. Parfois, Dieu te donnera le goût de la prière et ce sera facile de prier. Remercie-le. Parfois, ce sera plus difficile. Tu auras l'impression de ne pas savoir prier. Peu importe. Ce qui compte, c'est ta fidélité, car c'est elle qui exprime ton amour. Un petit extrait dans le chapitre intitulé « Prier tous les jours » du livre de Don François-Xavier Péqueux, « Jésus, que dois-je faire ?» paru aux éditions MAM. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Je vous redonne, en guise de conclusion de cette revue de presse du 7 mai, les titres dont il a été question. Comment savoir que Dieu me parle ? Je vous ai donné 3 clés du frère Paul Adrien pour savoir écouter Dieu et se conformer à ses désirs. Des clés que vous pourrez retrouver dans l'Invisible numéro 150. Nous avons ensuite parlé de la violence qui ne connaît plus de limites aujourd'hui à travers une interview du père Jean-Marie Petitclerc dans Famille chrétienne numéro 2415, complétée par une interview du père Bertrand Monnier sur les jeux vidéo, une interview dans l'Invisible numéro 150. Je vous ai ensuite parlé de Jonathan Kremer, un petit garçon qui aurait dû mourir à 9 mois et qui va fêter ses 9 ans cette année. Son témoignage est en ligne sur Aletheia. En culture chrétienne, je viens de vous présenter à l'instant le dernier livre de Don François-Xavier Péqueux, paru aux éditions MAM, intitulé « Jésus, que dois-je faire ?». Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve dans 15 jours.
Chers auditeurs et auditrice de Radio Maria, c'était la revue de presse avec Claire. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site radiomaria.fr ou sur notre application Radio Maria Play.